Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Je vais essayer d'user de bonté envers vous et vous envers moi. Merci pour ce bon moment de louange qui nous permet d'être bien présents, parce que je pense que comme ça, en plein été, avec la chaleur qu'il fait, c'est vraiment un choix hein, d'être présent. On a envie de faire la siesta comme en Italie, hein. Mais on est bien présent ce matin. On est présent parce que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Et moi, j'aime le dimanche matin, ouais, tous les jours de la semaine, mais j'aime bien le dimanche matin parce que on est ensemble. On est ensemble, et puis le fait d'être ensemble, ben, ça fait que ce qui est partagé, ce qui est chanté, ce qui est dit, prend une dimension ben, qu'on n'a pas si on est tout seul. J'aimerais saluer aussi Jean-Philippe et Sarbia avec leurs enfants qui sont là. Bienvenue. Hein. Voilà. On est toujours très content de revoir ceux qui nous ont quittés pour aller servir le Seigneur dans une autre partie du corps. Et vous êtes toujours les bienvenus. Jean-Philippe sera bientôt de retour pour prêcher un dimanche. Donc on se réjouit. Voilà. Qui aime bien les voyages? Bon, ceux qui n'aiment pas les voyages, il vaut mieux quitter la salle maintenant parce que je vais vous faire voyager. Non mais je pense qu'on aime tous, hein. Au moins aller jusqu'au Locle. Moi, je me souviens toujours, mon pasteur à Bienne, Gilbert Schwerzmann, il disait, moi, quand j'arrive à Nidau, je suis déjà à l'étranger, qu'il nous disait. C'est juste la ville après Bienne. Alors, il y a des gens qui aiment voyager réellement, hein, concrètement, physiquement. Et il y en a beaucoup qui partent aujourd'hui parce que les moyens de transport sont tellement évolués. Aujourd'hui, pour quelques dizaines de francs, vous partez presque aux quatre coins du monde. Et puis, il y a ceux qui aiment bien voyager dans leur tête. Ils se plongent dans un livre et puis ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Orient, ils sont, je ne sais pas, sur la Lune ou ailleurs, dans l'univers. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque voyage qu'on fait, à chaque étape, on découvre des choses nouvelles. Moi, c'est ce que j'aime personnellement. Quand je voyage, je tiens un jour et demi sur une chaise longue, puis après, je dois partir à la découverte du lieu où je me trouve. Par toutes sortes de moyens, à pied, en vélo, en moto, en fait, voiture, etc. Parce que j'aime découvrir des cultures, j'aime découvrir des habitudes, de la nourriture, des paysages différents de ceux que je vois à longueur de semaine ici. Bien que, voilà, merci, fermez toutes les portes. Les portes du lieu saint. Et quand on se remémore ces moments, alors soit on se passe des photos les uns les autres dans la famille, où est-ce que tu étais en vacances, j'étais ci, j'étais là, là j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable, puis on raconte son histoire, on aime, hein. C'est rare quand on rentre de vacances de ne pas partager au moins avec les uns et les autres ce qu'on a vécu. Et puis, je pense que c'est aussi, on passe des films, si le voyage a été lointain et dans des endroits reculés de ce monde. Et puis il y a une chose peut-être que vous faites aussi, que j'aime bien faire aussi, c'est envoyer des cartes postales. Est-ce que ça vous arrive d'envoyer des cartes postales? Voilà, j'en ai quelques-unes ici. Voilà, ça vient un petit peu de partout. Et c'est toujours agréable, parce qu'on se dit, ben, tiens, la personne, elle a pensé à moi. Voilà. Et puis elle m'envoie quelque chose qui, à ses yeux, est important. Elle a vu quelque chose qui lui parlait. Elle a vu quelque chose qui lui faisait du bien. Alors... Moi, j'aime bien envoyer des cartes postales. Je le fais tout de suite pour que ça arrive avant qu'on revienne de vacances. Vous avez vu cette carte postale qui a fait 50 ans pour arriver à sa destination. C'est marrant des fois. Hein? Voilà. Et je pense qu'on peut aussi tirer un parallèle avec la vie spirituelle. La vie spirituelle est aussi un voyage. J'espère pour vous. J'espère que vous ne stagnez pas dans un endroit sur une île déserte, mais que vous évoluez et que vous allez d'étape en étapes. Je suis sûr que vous pouvez raconter avec précision, si on vous le demandait ce matin, peut-être à quel moment Jésus s'est révélé à vous. C'était peut-être dans un endroit spécifique. C'était dans une circonstance donnée. C'était avec une ou des personnes. Moi, je me souviens, tout au début de ma conversion, bon, je découvre le groupe J'y crois bien, c'était déjà une découverte. Trentaine de jeunes qui, voilà, dans la liberté, parlaient de Jésus, alors que En dehors de ça, à chaque fois qu'on évoquait le nom de Jésus, les gens, ils étaient là presque à reculer, à faire des sauts de travers. Et puis là, ça parlait de Jésus, des autres religions aussi. Enfin, voilà, c'était un endroit. Et puis, à un moment donné, les jeunes ont dit, « Ah ouais, dans 2 semaines ou 3 semaines, on va à Lausanne pour écouter Billy Graham. » J'ai dit, « Moi, je ne connaissais rien du tout de tout ça. » Et puis, je dis, « Bon, ben, c'est qui ce Billy Graham ?»« Ah, c'est un très grand évangéliste américain. Ouais, » de toute façon, tout est grand en Amérique. Donc, j'ai dit, voilà. Et il vient où ? Il vient au stade de la Pontaise. Pardon ? Au quoi ? Au stade de la Pontaise, à Lausanne. Oui, il y aura 30 000 personnes. Oh, là, je me suis dit, attends, là. Ou bien la personne ne se sent pas très bien, ou elle a des hallucinations. Mais jamais j'aurais pu imaginer un seul instant qu'on puisse être dans un stade avec 30 000 personnes devant un orateur qui, en plus, à la fin de son message, fait un appel et demande aux gens de descendre au milieu du stade. Je me suis dit, mais là, il est complètement allumé, le gars. Hein? Enfin, c'était ma façon de penser à l'époque. Hein? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il n'y a personne qui aura le courage de descendre là, dans les travées de ce stade et de se retrouver là au milieu pour qu'on prie pour eux. Ça m'a marqué. Et je peux dire, si j'avais pu envoyer une carte postale à ce moment-là, je l'aurais envoyé. Parce que c'était tellement impressionnant que ça a marqué les débuts de ma vie chrétienne. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à faire un petit voyage en 4 étapes, avec chaque fois une carte postale. Projeter. Et j'aimerais qu'on soit dans les traces d'Élisée. Élisée était un prophète de l'Ancien Testament qui a vécu environ au 9e siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait pas mal de temps, hein, vous calculez environ 850 plus 2015, ça vous fait presque 3 millénaires. Donc c'est vraiment impressionnant de se dire que cet homme aujourd'hui aimerait vous envoyer des cartes postales parce qu'il a fait un trajet, il a fait un voyage et puis il a vécu des choses tellement importantes qu'elles sont rappelées dans l'Écriture. Et je pense que tout ce qui est rappelé dans l'Écriture a un sens. À un moment donné, l'Écriture nous parle. Parfois, on saute 15 fois sur la même histoire, elle ne nous dit rien. Puis la 16e fois, paf, quelque chose nous vient de cette histoire, elle devient vivante pour nous, on y trouve la substance, on y trouve un enseignement, il y a un mot qui nous touche, qui nous fait peut-être pleurer, ou qui nous remet en question, c'est vraiment impressionnant. Donc, on trouve son histoire dans le 2e livre des Rois, à partir du chapitre 2. Et je vous lis ce récit. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Mais tu demandes une chose difficile, mais si tu m'envoies pendant que je serai enlevé avec toi, d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà un chouette voyage, hein? Et j'aimerais voir avec vous, dans ces quatre étapes, ce qui peut nous parler à chacun, ce qui peut nous encourager, nous édifier. Quand vous recevez une carte postale, soit vous dites, bof, banal, ouais, c'est gentil, on a pensé à moi. Mais... Ah, c'est ça. Je me suis dit, c'est le char de feu, là, qui arrive. Non. ou bien vous dites, waouh, ah ben là, j'y ai jamais été. Chérie, l'année prochaine, tu serais d'accord qu'on aille jusque là-bas? Parce que ça a l'air vraiment super, ça a l'air vraiment chouette. Ben oui, pourquoi pas, hein? Voilà, donc on peut faire quelque chose avec ce qu'on reçoit. Et je pense que dans ce voyage, dans ce récit d'Élie, il y a une invitation. Il y a une invitation à vivre des expériences concrètes avec ce Dieu vivant. Et Élisée aimerait nous inviter, nous poser la question ce matin. Est-ce que tu as déjà passé dans ces lieux dits? Est-ce que tu as déjà pris le temps d'aller jusque-là? Est-ce que tu as vécu ces expériences qui sont aussi pour toi? Parce que même si, effectivement, certaines expériences sont très limitées dans la parole de Dieu, peut-être que moi, je ne vais jamais marcher sur les eaux, mais on voit que certaines expériences de base, tous les chrétiens sont appelés à les vivre. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'Élisée veut nous dire. En nous envoyant ses cartes postales, eh bien, il a quelque chose à nous dire. Il nous pose une question, il te pose une question ce matin. Est-ce que tu étais déjà là et est-ce que tu as vécu cette expérience? Ou est-ce que tu es prêt à y aller pour ne pas stagner dans nos vies chrétiennes? Nous sommes appelés à avancer. Moi, j'aime bien l'histoire d'Élie parce qu'elle concerne un homme dans lequel chacune et chacun peut s'identifier. C'est sûr que notre exemple parfait, absolu, c'est Jésus. Mais c'est vrai que dans certains domaines, on est encore loin de lui, hein. Élisée, il est un petit peu proche de nous parce que, dans le fond, c'est un homme de la terre. Quand Élie le rencontre, il était en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Donc, il ne peut pas être très pauvre dans la famille. Mais Élisée labourait. Ça aurait pu être un mécanicien de précision, ça aurait pu être un facteur, ça aurait pu être un jardinier. C'est un laboureur, un homme de la terre. Et jamais il aurait pu imaginer un seul instant être appelé à une telle destinée, à vivre de telles expériences à ce moment-là, alors qu'il est derrière ses bœufs en train de labourer. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Élisée ne s'est pas contenté de vivre l'expérience où Élie s'approche de lui et où il jette son manteau sur lui. Il est dit expressément au verset 21, qu'au moment où Élie s'approche de lui, il se leva, le suivit et fut à son service. Je pense qu'on peut très bien transposer cette expérience d'Élisée dans nos propres vies. Lorsque Jésus s'approche de nous, lorsque Jésus se révèle à nous, lorsque Jésus veut mettre ce manteau sur nos vies, eh bien, je pense que c'est ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous levions, que nous le suivions et que nous soyons à son service. Dans Ésaïe au chapitre 61, verset 10, vous trouvez cette parole qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et au verset 10, il est dit « Car il m'a revêtu du vêtement du salut et de quoi ?» La première partie est juste, mais pas la deuxième. Le manteau de la délivrance. Il m'a revêtu du vêtement du salut, et c'est la première expérience que nous vivons lorsque nous découvrons Jésus, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Et lorsque nous vivons cette expérience du salut, on se sent comme revêtu de quelque chose. Certains disent, mais oh, j'ai senti sur tout mon corps, ça faisait des chatouillis, ou bien ça faisait des... Qu'est-ce que ça vous faisait, vous? Mais on s'en rappelle, parce que c'est un moment tellement fort. Lorsque Jésus nous couvre de ce manteau ou de ce vêtement, quelque chose se passe en nous. Et on a envie de se lever parce qu'une puissance de vie vient en nous et on a envie de suivre Jésus. Et moi, j'aime me rappeler des premiers mois, des premières années de ma vie chrétienne. J'aime aussi les autres. Mais tout était nouveau, tout était frais. On était prêt à faire des choses incroyables pour Jésus. On partait dans les bistrots, on évangélisait, on allait dans la rue. Moi, j'avais même imaginé un jour, je me suis dit, mince, cette église réformée, elle est en train de pioncer. Moi, un dimanche matin, avant le pasteur, je monte sur la chaire et je prêche à tout le monde. Non, mais j'étais plein de feu, hein, c'était, je ne l'ai pas fait, hein, parce que, mais ça arrivera peut-être un jour, non, je ne sais pas. Voilà, donc c'est des choses que le Seigneur veut nous donner de vivre. Nous sommes spirituellement nus devant lui, hein, à notre conversion. Adam, Ève, hein, où êtes-vous? Ben oui, c'était caché derrière une feuille de vigne, là, ou de figue, je ne sais pas quoi, de figue, hein, voilà. Donc on est nus spirituellement devant Dieu, et il le sait. Et il veut nous revêtir. Il sait aussi que si nous commençons cette étape, cette marche avec lui, ce voyage avec lui, eh bien que nous devons être couverts par lui. Parce que autrement, face à l'ennemi de nos âmes, face à la mentalité de ce monde qui nous entoure, bien, notre voyage n'irait pas très loin. Certainement qu'on s'arrêterait très rapidement. Mais le Seigneur nous revêt. Il veut nous habiller, nous revêtir, nous couvrir. Pas pour qu'on reste assis et qu'on se pavane avec nos nouveaux habits, mais pour qu'on le suive et qu'on le serve. Voilà la première éclairage que ce texte peut nous donner. On va passer maintenant à la première étape par laquelle Élisée va passer en suivant Élie. Prochain. La première étape, c'est Gilgal. Alors vous pouvez situer plus ou moins, là vous avez le Jourdain sur votre droite, vous avez Jéricho, voilà, et Gilgal, voilà, on avait un petit peu de la peine à le situer, mais apparemment sur les cartes c'est là. Hein. Alors que signifie la première étape de Gilgal? Qu'est-ce que Élisée veut nous dire en nous envoyant cette carte postale? La prochaine, souvenir de Gilgal. Voilà, j'ai reçu cette carte, je l'ai lue. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'Élisée veut me dire au travers de cette étape-là? Qu'est-ce que cette étape va nous faire découvrir? Ou qu'est-ce qu'elle va nous rappeler? Gilgal rappelle un événement clé de l'histoire du peuple d'Israël. Rappelez-vous, 400 ans d'esclavage en Égypte, ça vous change un homme, hein? Ça vous change une génération, ça vous change un peuple, ça vous change un pays. À tel point qu'à la fin, les Israélites ne se rappelaient même plus, ne connaissaient même plus le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient été sous la domination pendant 400 ans d'un règne humain, le règne du Pharaon. Et puis, ben, c'était l'idolâtrie, bien sûr, en Égypte. Et Israël était sorti dans le fond de la zone d'influence de ce Dieu grand et puissant. Et à la sortie d'Égypte, à un moment donné, alors que Josué est en train de conduire le peuple en terre promise, Josué va faire quelque chose d'assez particulier. En Josué 5, verset 9, il dit « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » C'est-à-dire qu'il va circoncire tous les hommes qui ne l'avaient pas été durant ces 40 années de désert. Et avant d'entrer dans le pays promis, il va les circoncire. Et cette circoncision signifie, pour Josué à ce moment-là, qu'il va rouler l'opprobre de l'Égypte. Ça veut dire rouler la honte qui était sur le peuple juif durant ces 400 ans passés en Égypte. Il va les rouler. Ce peuple que Dieu s'était acquis, donc on était arrivé au point de ne même plus le connaître. Imaginez le changement qui s'est opéré au sein de ce peuple. Donc ils sont nus. Ils sont aussi nus là. Ils ont perdu le revêtement spirituel et il fallait à ce moment-là rouler tout cela. Considérer les choses anciennes comme définitivement passées afin d'entrer dans une nouvelle étape de vie. Et dès qu'Israël passe le Jourdain, ils entrent réellement dans les promesses de Dieu. Mais il fallait que les choses anciennes soient passées. Et en tant que chrétien, il en va de même. On peut dire aussi que nous vivions dans l'esclavage, n'est-ce pas? Quand nous étions dans ce monde. Il y a plein de choses qui dominaient nos vies. La pensée de ce monde qui n'est pas forcément ouverte à la pensée de Dieu. Il y a y a toutes sortes d'habitudes qu'on prend dans le monde aussi. On est, par notre nature de péché, on est souvent entraîné dans des voies sans issue. Il y a plein de gens dans les labyrinthes aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont perdus. Enfin, ils sont quand même en marche en espérant trouver une sortie, mais dans le fond, ils sont perdus. En Christ, nous avons été délivrés pour vivre en nouveauté de vie. C'est ce que Paul nous dit. Et je pense que notre Gilgal à nous, notre circoncision, bien sûr, c'est une circoncision du cœur, mais je pense qu'il est signifié par le baptême. Au moment où nous entrons dans les eaux du baptême, nous roulons l'histoire passée, ancienne, et nous la faisons, par la grâce de Dieu, disparaître. Notre ancienne manière de vivre, nous coupons avec notre passé pour commencer une nouvelle étape de vie. Et là, je me souviens aussi, le jour de mon baptême, nous étions neuf, et puis nous étions au premier rang, là, à l'église de réveil, à Bienne, c'était encore une plus petite salle qu'ici. Et puis moi, je m'étais préparé, donc je m'étais dit, voilà, c'est un moment important de ma vie, il ne faut pas que je loupe ce moment, il faut que je sois bien présent. Mais vous ne savez pas à quel moment vous allez réellement ressentir quelque chose. Parce qu'on peut, on peut aller à la rencontre du baptême et le vivre de manière très stoïque. Ah, c'est marqué, j'obéis, j'y vais, je me plonge, je sors de l'eau, et voilà, les choses anciennes sont passées. Mais je crois que Dieu sait aussi nous rencontrer à un moment précis, à un bon moment dans nos émotions. Parce qu'il veut que notre être tout entier vive cet instant-là. Et ce n'est pas rien. Suivant ce qu'on a vécu, bon, moi, j'étais pas un terrible. Hein. T'es d'accord, Yves? Pour une fois, il est d'accord avec moi. Voilà. Voilà. Mais quand même, des bêtises, on en a tous plus ou moins fait. Mais il y a parfois des passés qui sont tellement lourds. Les gens viennent chargés. Hein. Ils ont des remorques derrière eux et tout. Imaginez ce moment de pouvoir rouler ces choses-là. On roule les choses et c'est du passé. Parce que la puissance du Seigneur est tellement grande, tellement forte, que voilà, il arrive à faire disparaître ce passé et à nous guérir de ce passé. Donc, nous roulons notre ancienne manière de vivre. Nous coupons avec notre passé. En 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors là, il faut faire aussi un peu attention parce que la vie chrétienne est un cheminement. Moi, je me souviens, dans les années, je ne sais pas, 50, 60, c'était, le thème, c'était la mort à soi-même. Alors, on doit mourir à soi-même, à cette vieille nature de péché, et on faisait beaucoup d'efforts pour essayer de mourir, mais on n'y arrive pas, hein. Moi, je me souviens, tout au début, quand je suis arrivé à l'église de réveil, c'était le thème principal, la mort à soi-même. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, je n'y comprenais rien du tout à ce moment-là encore. Et en fait, j'ai compris dans le fond que, voilà, bien sûr, notre nature de péché, on ne peut pas la transformer. On ne peut pas la changer. Donc, elle est destinée à la mort. Et le baptême, c'est le signe de cette mort à cette vieille nature. Et quand je ressors de l'eau, je suis prêt pour commencer à vivre en nouveauté de vie. Mais ça ne change pas en un instant, en une seconde. Il y a des choses qui changent rapidement. On est comme délivré ou guéri de certaines choses. Moi, j'avais pas mal de luttes avec la cigarette parce que j'avais vécu longtemps dans le sport actif. Donc là, on ne fumait pas. Mais après, on se lâche et puis on lâche prise. Puis allez, une petite cigarette, un petit ci, un petit ça. Et là, j'achetais des paquets de cigarettes, j'en fumais. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je tordais le cou à la cigarette. Mais c'est à ma nature de péché qu'il fallait tordre le cou, pas la cigarette. Jusqu'au jour où j'ai compris cela, et on peut aller de l'avant. Et notre vie vit ces changements et ces transformations. Bah, dimanche 30 août, on aura plusieurs personnes qui vont passer par les eaux du baptême, et c'est ce qu'elles vont signifier. J'ai roulé mon passé maintenant, c'est fini. Enfin, c'est le Seigneur qui roule ce passé. Pouf, on a placé tout ça au pied de la croix, et terminé, c'est du passé. Voilà ce que nous rappelle Élisée, au travers de ce souvenir de Gilgal. On va passer à la deuxième étape maintenant, c'est celle de la carte postale qui nous vient de Bethel. Alors Bethel, vous voyez, c'est un petit peu plus au nord du pays, et c'est là qu'a passé Élie avec Élisée. Et j'aime bien chaque fois cette insistance d'Élisée. Non, je ne te quitterai pas, moi je veux vivre la prochaine étape. Hein? Il y a une sorte de violence à l'intérieur de nous. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça ne va pas nous tomber dessus. On ne va pas tout d'un coup avoir une chaise à porteur et puis des gens qui vont nous amener à Bethel. C'est parce qu'il y a quelque chose à vivre à Bethel qu'Élisée veut aller à Bethel. Et je crois que nous devons aussi faire preuve de persévérance et de vouloir. Il est dit dans la parole que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Parce qu'il y a souvent des gens qui veulent, mais ils ne font jamais. Si ça vient du Seigneur, non seulement je veux, mais je trouve en moi la force de le faire. Et là, ça commence de devenir intéressant. Donc, c'est parti pour la deuxième étape. Deuxième carte postale, fraternel message de Bethel. Voilà. Bon, c'est peut-être pas forcément Bethel de l'époque, mais enfin, ça ressemble un petit peu quand même. Alors, quel souvenir à Bethel? Qu'est-ce qu'Élisée veut nous rappeler en nous envoyant cette carte postale de Bethel? Bethel, vous le savez tous, signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu, hein, la maison de Dieu. Bethel rappelle un moment clé de la vie de Jacob. Si on retourne un petit peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais Jacob, il était vraiment au bout de lui-même. Il n'en pouvait plus. Il était en fuite. Il était défaillant. Il était au bout de ses capacités. Il était désorienté. Il était perdu. Ça, le Seigneur aime bien, parce que là, il peut enfin nous trouver, hein. Tant en temps qu'on bombe le tort, c'est qu'on croit qu'on a tout compris, qu'on sait exactement où on va, qu'on a déjà un plan détaillé de toutes les étapes de notre vie. Je ne pense pas que c'est dans ces moments-là que le Seigneur peut toucher nos cœurs, bien que à lui, rien n'est impossible. Mais il rencontre alors Jacob à ce moment-là et il lui apparaît en Genèse 28, 10. Il se révèle à lui et prophétise sur sa vie. Dieu peut prophétiser sur ta vie. Il ne vient pas seulement dire « Bonjour, c'est moi Dieu, oh, je t'aime bien, je suis plein de bonté à ton égard. » Non, il ouvre une perspective devant nous. Il ouvre un horizon éternel, mais il ouvre un horizon. Alors imaginez pour ce Jacob qui est là, et Dieu lui dit « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Et alors Jacob s'écrie « Oh, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. » Donc il vit une expérience incroyable et il se dit, ben voilà, ça c'est avoir une relation avec ce Dieu vivant. Un Dieu qui parle, un Dieu qui s'intéresse à moi, un Dieu qui est prêt à prendre soin de moi, un Dieu qui a une vision pour ma vie, ça c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Et Jacob bâtit là un autel en souvenir de ce moment clé de sa vie. Il entre dans l'adoration, dans la louange, il sait ce que ça veut dire à ce moment-là que de louer Dieu, parce que Dieu s'est révélé à lui. Lorsque Jésus s'est révélé à nous, nous étions désorientés aussi. Nous étions perdus, nous étions défaillants, en fuite, en rupture, tout ce que vous voudrez. Et à notre conversion, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, on n'en est pas tout de suite conscient, on devient des enfants de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Alors là, il faut un petit moment hein, quand même pour réaliser ce que ça signifie. Est-ce qu'on le réalise pleinement, même après 30 ans de vie chrétienne? Mais c'est un fait. Dieu nous dit, ben, puisque tu as accepté le chemin, la vérité, la vie en Christ, ben, tu deviens mon enfant. Je t'adopte, tu es à moi, et je vais aussi pouvoir prophétiser sur ta vie. Je vais aussi pouvoir me révéler à toi. Je vais pouvoir me manifester comme jamais dans ta vie. En Romains 8, 16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tant longtemps que l'Esprit de Dieu ne trouve pas son lieu d'accueil en nous, moi, pendant 23 ans de ma vie, je n'ai jamais pensé un seul instant me dire, ah, je suis un enfant de Dieu. À l'époque, il y avait une secte qui s'appelait les enfants de Dieu. Ils avaient essayé d'ailleurs de nous amener là-dedans. Mais c'était impressionnant. Et je pense que c'est au travers de l'Église qu'on découvre, dans le fond, qu'on fait partie d'une nouvelle famille qui est différente de notre famille de corps, terrestre, etc. On fait partie de la famille de Dieu. Nous sommes rendus capables de recevoir ces révélations personnelles. À Éphésiens 2, 19, vous êtes concitoyens, gens de la maison de Dieu. Est-ce que vous avez déjà réalisé cela? Est-ce que c'est un fait accompli en vous? Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rend. C'est ce contact, ce vis-à-vis, cette collaboration, ce partage, parfois juste de l'adoration, juste, voilà, on est là devant Dieu. Est-ce que Bethel fait partie d'un de tes endroits favoris? Est-ce que tu as déjà passé par Bethel? Où tu as reçu cette révélation personnelle, ce face-à-face avec Dieu? Et Élisée avait besoin de ce moment-là. Se dire, ben, il n'y a pas qu'Élie qui a cette extraordinaire chance de vivre ce face-à-face avec Dieu. Il va bientôt être enlevé au ciel, c'est quelque chose d'incroyable. Et moi? Et souvent, je rencontre, enfin souvent, ça m'arrive de rencontrer des chrétiens, ils sont sûrs d'être sauvés, ça oui. Mais après, ça devient de plus en plus flou. On ne sait pas trop, oui, est-ce que je suis vraiment aimé de Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment quelque chose de particulier à me faire vivre? Et là, c'est le doute qui s'installe. Les choses deviennent un petit peu floues. Mais je crois que si on passe à Bethel, si on vit ce qu'Élisée a vécu, on repart de là en étant convaincu, en ayant des convictions. Nous, on n'est pas en train de se dire chaque matin quand on se lève, est-ce que je suis enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je suis un fils aimé de Dieu ce matin? Non, c'est une réalité. C'est marqué dans notre être profond. Alors j'espère que vous fréquenterez l'hôtel de Bethel, que vous ferez une halte à cet endroit-là pour vivre ce que Élisée a vécu. Voilà, on va passer à la troisième étape. Ça va? C'est un beau voyage, hein? Alors si vous venez faire un voyage en Israël avec nous l'année prochaine, vous le verrez. Ouais, non, mais bon, bref, je ne m'avance pas trop. Troisième étape, c'est Jéricho. Alors Jéricho, c'est quelque chose d'assez particulier. Gilgal, voilà, on roule le passé, on peut commencer quelque chose de nouveau. On passe dans cette prise de conscience qu'on est fils et fille de Dieu, on fait partie de la maison de Dieu, on y entre et on y sort comme on veut. Hein, c'est extraordinaire d'aller dans la présence de Dieu. Et puis il y a Jéricho. Qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de Jéricho? C'est là que le peuple d'Israël va faire la première rencontre ou l'expérience avec l'ennemi dans le gros sens du terme. Parce que jusque-là, bon, ben, évidemment, il y avait les Égyptiens, et voilà, il y avait traversé de l'Égypte. Ils avaient connu pas mal de difficultés aussi en traversant Moab et en fait toute la région, là, le long du Jourdain. Mais quand ils arrivent à Jéricho, boum, tout peut s'arrêter. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, n'est-ce pas, lorsque vous aviez planifié un voyage, qu'à la deuxième ou la troisième étape, tout s'arrête. Votre voiture tombe en panne, vos enfants sont malades, votre femme, voilà, elle n'a plus envie d'aller là, ou votre mari, je ne sais pas. Tout d'un coup, tout peut s'arrêter. Et là aussi, moi, j'ai connu des chrétiens où tout d'un coup, tout s'est arrêté. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Ça, c'est une bonne question. Donc le peuple d'Israël arrive devant Jéricho. Pouh, ça devait être impressionnant, Jéricho. Hein, qui a déjà été à Carcassonne, par exemple? Ah ben, moi, je vous invite à aller à Carcassonne, parce que c'est beau. Voilà. C'est assez impressionnant. Vous êtes là devant un lieu quasiment imprenable. Vous grattez la tête pour vous dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir prendre cette ville? C'est quasiment impossible. Et là, l'ennemi ferme l'entrée du royaume, c'est-à-dire du lieu où Dieu voulait faire entrer Israël. C'est le but, ils atteignent enfin le but. Stop, on s'arrête, on n'avance plus. Et je pense que vous avez vécu aussi cela, d'une manière ou d'une autre, dans votre propre démarche, votre propre voyage spirituel. Mais là, quelque chose d'extraordinaire va se passer, on passe à la troisième carte postale, voilà. Meilleure salutation de Jéricho, qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là, en tout cas pour Josué? Alors on va peut-être le lire quand même, parce que c'est un passage assez particulier. Imaginez cet homme qui a la tête du peuple, qui a déjà vécu 40 ans dans le désert, ben, ça ne devait pas être évident. On avait enfin envie d'arriver à l'endroit visé. Et en Josué, au chapitre 5, alors attendez là, je me suis fait peut-être une petite... Voilà. Comme Josué était près de Jéricho, verset 13, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, et il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Ça devait être impressionnant. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Et Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Je pense que devant toutes les murailles qui peuvent se dresser dans notre évolution spirituelle, dans notre marche avec Jésus, il y a des moments où on réalise peut-être un peu plus que dans d'autres moments que le combat qui est là devant nous n'est pas le nôtre. Parce qu'humainement parlant, impossible de prendre Jéricho. Donc il nous faut une révélation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit de l'ordre du divin, qui soit de l'ordre de l'extraordinaire. Et Dieu le sait bien. Et parfois Dieu permet que nous soyons en face de Jéricho. Et on a l'impression qu'on n'avance plus dans notre vie chrétienne, qu'on est pétrifié par la puissance et la force de l'ennemi ou du lieu. Pas plus tard que... C'était quand ? Jeudi soir ? On s'apprête à aller au lit avec ma femme. 11h, moins le quart, téléphone sonne. On n'aime pas recevoir des coups de fil à 11h. Hein. Quand même, mes beaux-parents sont âgés, on se dit toujours, oulala, ben un jour, il y aura un téléphone qui annoncera que... Puis là, je ne citerai pas la personne, mais pour dire, c'est une personne qui nous téléphone, elle est en pleurs, elle nous dit, ça va pas, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, non, j'arrive pas, etc., etc. Est-ce que vous pouvez, est-ce que je peux te voir? Puis je dis, oui, demain matin, non, tout de suite. Je dis, chouchou, comment on s'habille, on ne va pas aller en pyjama quand même. Hein. Et puis voilà, 11h, on arrive chez la personne, elle est là, en pleurs, voilà. Et puis, on réalise bien à un moment donné qu'il y a un Jéricho devant elle. Il y a un Jéricho. Mais c'est magnifique en même temps. En même temps, ça peut être stressant, ça peut être écrasant, ça peut être déstabilisant. Mais Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Et quand on est face à un Jéricho, on a diverses possibilités. C'est faire demi-tour, puis repartir dans le désert, par exemple. Prends ta valise et puis tu retournes en arrière. Ou bien on retourne à Gilgal ou à Bethel. Mais Dieu veut qu'on aille de l'avant. Et on a commencé de prier avec cette personne. Et puis à un moment donné, il y a des images qui viennent, on partage, etc. Et puis c'est le moment de prendre autorité. Et c'était tellement important aussi que la personne réalise qu'elle n'aura pas toujours un pasteur sous la main à 11h du soir, qu'elle n'aura pas toujours un chrétien plus avancé, plus expérimentée à côté d'elle, qu'elle est appelée elle-même maintenant à se lever, à suivre et à servir, revêtue de ce vêtement du salut et de ce manteau de la délivrance. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as ce manteau de la délivrance? Est-ce que tu es conscient que Jésus a mis un manteau de délivrance sur ta vie? Puis voilà, on discute de ça et tout d'un coup, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Je dis, écoute, En Christ, tu peux te lever et tu dois te lever. Tu ne peux pas rester assis devant Jéricho. Et moi, je peux être debout devant Jéricho, mais si toi, tu es assis, ça ne va pas. Donc, il faut qu'on se lève, les deux, les trois, puisqu'il y a ma femme aussi. Et on a commencé de prier. Et puis voilà, on est reparti de là. La personne était apaisée. Le lendemain matin, on s'est téléphoné. Oui, j'ai passé une bonne nuit, ça allait bien, etc. Vous voyez ? Donc ça peut arriver et ça doit arriver à chaque chrétien. Si quelqu'un me dit « Non, ma vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille. » Voilà. Ça, c'est votre problème. Hein. Mais quand on est, à l'image d'Élisée, désireux d'aller à la rencontre de ces villes-étapes, je dirais, ou de ces lieux où Dieu veut nous faire vivre des expériences, on ne peut pas se contenter du salut, juste. Hein. Voilà. Donc, on comprend que ce combat n'est pas notre combat d'abord. Parce qu'on ne peut pas, avec notre force à nous, avec nos connaissances bibliques même, ça ne suffit pas. Il faut l'intervention de l'ange de l'Éternel. Il faut que Jésus vienne dans cette situation et nous dise, allez en avant, je suis devant toi. Ou à un moment donné, il disait, allez-y, je suis derrière vous. Ouh, c'est là, t'es encore là, Seigneur. Voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur veut être avec nous. Et il veut combattre avec nous. Et il veut combattre pour nous. L'apôtre Paul a dit en Romains 8, 38, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. Alors des fois, on ne fait pas les fiers à bras. Hein, on est là, on dit, mais oh, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et là, on a besoin d'expérimenter Jéricho. Il est là. Il arrive et il nous rend capable d'aller à travers l'obstacle, à travers le défi, à travers les difficultés. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2,14. Parfois, ça peut durer longtemps. Et je vois des chrétiens souffrir parce qu'ils disent, mais là, j'en sors pas, j'y arrive pas. Bon, ils ne se rappellent plus. Ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont déjà vécu avant. Hein. Dans ces moments-là, on a l'impression qu'il y a un nuage qui cache le soleil, tout le reste est bleu, mais on voit que le nuage. Oh, c'est l'horreur, ma vie, c'est terrible, non, j'y arrive pas, etc. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Vous vous rendez compte? L'autorité que le Seigneur nous donne en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu. Résistez au diable, pas un démon ou un esprit méchant seulement, au diable. Si ça vous arrive, rappelez-vous cela. Il m'a revêtu du vêtement du salut et du manteau de la délivrance. Amen. Alors on arrive bientôt à la fin de ce voyage et on arrive à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est le Jourdain. Alors on a l'impression de reculer maintenant, on a fait tout un parcours, mais le Jourdain est une étape importante, elle est citée dans ce périple d'Élysée. Élie, je parle d'Élie maintenant, hein. Élie était un homme de la même nature que nous, hein. C'est Pierre qui le dit, la même nature que nous. Mais c'était un homme qui avait placé sa foi en Dieu. Et ça, ça fait la différence. Sa vie, elle fut marquée par des interventions assez incroyables, des interventions divines, miraculeuses. C'était un homme au travers duquel le royaume de Dieu pouvait se manifester, se révéler, s'incarner. Moi, je sais, moi, j'ai vécu des moments de peur, de frayeur, que le royaume de Dieu se manifeste au travers de moi. Parce que je me dis, ah, si je me trompe, si ce n'est pas vraiment Dieu, si ce n'est pas vraiment sa volonté, si c'est... Vous comprenez? Et à un moment donné, dans la crainte, dans la peur qui peut nous envahir, ben on empêche ce royaume de Dieu de se révéler de manière tellement simple et naturelle au travers de nous. Et il y a eu des moments extraordinaires où voilà, on prie avec quelqu'un, paf, vous recevez une image, boum, vous la donnez, ah c'est moi, boum, on commence de pleurer, on prie. C'est extraordinaire, on voit des signes évidents de ce royaume qui se manifeste. Donc Élie a vécu ce genre de manifestation, il a résisté frontalement à l'idolâtrie du roi Achab, qui était le pire roi d'Israël. Il était en plus marié à Jézabel, vous voyez le mélange, hein, c'était vraiment l'horreur. À un moment donné, il permet que l'huile qui est en train de se verser pour la veuve de Sarepta ne s'arrête plus. Elle va remplir des pots après, les uns après les autres, donc c'est un miracle extraordinaire. Il prie aussi pour le fils de la veuve qui est mort, et puis le gamin il va ressusciter, il va revenir à la vie. Il défie les prophètes de Baal. Vous imaginez, vous êtes tout seul devant les prophètes de Baal avec une puissance incroyable. Eh bien, il les défie. Donc voilà, ce sont toutes des manifestations du royaume de Dieu au travers de sa vie. Moi, j'aimerais être assez libre intérieurement pour que Dieu puisse faire ce qu'il a envie de faire. Là, dans la rue, en commission, en voyage, dans ma famille. Et souvent, ouf, ça se coince. Hein. Alors, il y a des moments où c'est la sagesse de Dieu, parce que ce n'est pas le temps et le moment. Mais quand c'est le temps et le moment, puis que moi, je coince le tout, et que ce royaume de Dieu aimerait sortir de moi, mais à cause de ma crainte, il ne peut pas, je me dis mince. Hein, c'est vraiment embêtant. Et souvent, c'est dans des petites choses comme ça. Donc là, au bord du Jourdain, accompagné de son serviteur Élisée, il va accomplir ce dernier geste symbolique. Il prend son manteau, le roule, frappe les eaux du Jourdain qui s'écartent. Il va être enlevé dans la gloire céleste. C'est assez incroyable d'imaginer la scène. Et Élisée, lui, va continuer son œuvre. C'est son disciple. Il l'a suivi, il s'est levé, il l'a suivi et il l'a servi. Mais maintenant, c'est à lui de jouer. Il ne pourra plus compter sur Élie. C'est lui qui va devoir maintenant devenir ce moyen de bénédiction que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Et il ne pourra le faire que rempli du Saint-Esprit. C'est impossible autrement. Être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Jésus a clairement dit à ses disciples, « Ben voilà, dans quelque temps je vais être enlevé. » Il dit, « Si, mais Seigneur. » Et puis après mon enlèvement, ben vous serez mes témoins, vous continuerez mon œuvre, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, vous annoncerez une bonne nouvelle, vous prierez pour les démoniaques qui soient libérés, vous prierez pour les gens qui sont malades, elles guériront, vous marcherez sur les serpents, sur les... Ouais. Jésus est prêt à être enlevé au ciel. Et là, il prépare ses disciples pour qu'ils puissent à leur tour continuer cette œuvre extraordinaire. Parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Il peut s'arrêter dans ma vie, mais Dieu a d'autres canaux. Hein. Si moi je ferme le robinet, il trouve des pipelines. Hein. Mais moi j'aurais passé à côté de l'essentiel. Donc, on n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Alors c'est une image que je donne, parce qu'on est en plein été, en t-shirt et en bermuda, puis avec un sombrero sur la tête. Rappelez-vous, Dieu nous a revêtus du vêtement du salut et du manteau de la délivrance. Après, ce que vous voulez mettre par-dessus, ça c'est libre choix. Hein? Mais réellement, l'être intérieur, l'homme intérieur, il est revêtu pour se lever, pour suivre et pour servir notre Dieu. L'homme intérieur peut être revêtu jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ce qui est dit dans la parole. Je ne sais pas où moi j'en suis par rapport à mon compteur. De cette plénitude. Peut-être que je suis à moitié plein, peut-être aux trois quarts, peut-être au quart. Mais la parole me dit que je peux être rempli jusqu'à toute la plénitude. Et est-ce que j'ai la détermination d'Élisée dans ces moments-là? Je me dis, mais moi je le veux ça. C'est écrit. Peu importe les autres, moi je le veux. Et j'irai avec toi. J'irai jusqu'au bout. Je veux vivre cette expérience. Je veux vivre cette étape. Parce que je t'ai confié ma vie. Alors je termine. Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il envoie, comme Élie l'a fait pour Élisée, ses disciples. Et on en voit les résultats, n'est-ce pas? Dieu ne se moque pas de nous. S'il nous revêt, s'il nous envoie, c'est que des choses vont se passer. Et si je suis disponible, ces choses se passeront réellement pour la gloire de Dieu. Encore une fois, peut-être dans des petites choses, mais c'est souvent par des petites choses que Dieu commence de révéler le royaume de Dieu. Hein? Ce n'est pas chaque fois des grands miracles extraordinaires. Mais si ces petites choses peuvent trouver place en moi et que je peux les placer dans ce monde ou dans la vie de l'autre par bonté, alors Dieu sera glorifié. Donc voilà les quatre étapes. On pensait avec vous depuis le bord du Jourdain. Les quatre étapes, ces quatre cartes postales qu'Élisée nous a envoyées. J'espère que vous prendrez le temps de vous poser la question, est-ce que j'ai déjà passé par là ou est-ce que je suis prêt à y aller? Et à ce moment-là, si vous y allez, s'il vous plaît, envoyez-moi une carte postale. D'accord. On va prier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu vivant qui est capable de nous faire vivre des choses qui dépassent notre petite intelligence humaine, qui dépassent notre entendement. Toute l'histoire passée nous rappelle que tu as su comment utiliser des faibles vies comme celle d'Élie ou d'Élisée ou d'Abraham ou d'Isaac, enfin Moïse, tous ces gens-là étaient de la même nature que nous. Mais tu les as entraînés dans un voyage extraordinaire. Tu leur as donné de vivre des étapes parfois difficiles, mais tu as pu révéler ta grandeur, ta puissance et ta gloire. Tu as parfois aplani le chemin et c'était un tapis roulant devant eux et ils voyaient ta gloire se manifester. Seigneur, merci. Merci de ce que aujourd'hui encore tu nous rappelles au travers de ces quatre cartes postales, des expériences que tu veux nous donner de vivre, chacune et chacun, peu importe notre âge, peu importe notre passé. Seigneur, je te demande vraiment qu'on soit à l'image d'Élisée, qu'on soit déterminé à aller à la rencontre de ces lieux, à les visiter, pas comme des touristes, à les visiter pour expérimenter ce que tu en réserves pour nous, à la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton règne dans nos vies, dans nos cœurs et dans ce monde. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur.